R22, tout monde, antenne, radio, brouhaha.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création, politique.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices de m'avoir conviée à modérer ce panel qui va me donner le plaisir de retrouver, même si c'est à distance, Christine Planté et Audrey Lasserre dans le cadre de ce programme extrêmement riche que vous nous avez présenté dans la première partie tout à l'heure à 9h et qui, je dois dire, est aussi réjouissant parce que ça montre la vitalité des recherches qui sont en cours. Et puis un petit plaisir aussi personnel parce que je me suis un petit peu éloignée ces derniers temps des mes travaux sur la littérature, et donc c'est toujours un immense bonheur que de revenir sur ces questions-là. Donc on va désormais aborder la première session du panel, hein, après cette magnifique introduction et ce magnifique échange, donc intitulé « Questions de catégorisation », donc avec Christine Planté et Audrey Lasserre. Et donc, voilà, nous sommes là, nous sommes présentes, les écrivaines, les poétesses, poètes, femmes, etc. Je ne sais comment les qualifier, mais cette question est éternelle, si j'ose dire. Voilà, donc cette première séance va sans doute nous plonger dans les tréfonds de cette question des catégorisations, hein, selon quelle perception, selon quel nom, selon quelle représentation littéraire, sociale, selon quelle pratique, selon quelle forme littéraire, selon quelle forme de consécration les femmes habitent-elles cet espace de la littérature. Donc, en d'autres termes, comment sont-elles désignées ou symbolisées, et donc, quelles sont ces questions qui se posent et se reposent d'un siècle à l'autre pour appréhender la présence des écrivaines romancière, poétesse. Donc, sans plus attendre, nous allons écouter respectivement Christine Planté, puis Audrey Lasserre. Donc, chacune, je donne quelques consignes également, enfin, je les rappelle, dispose de 25 minutes, hein, suivi d'une vingtaine de minutes pour vos questions et remarques. Donc, vous nous l'avez dit tout à l'heure, les questions apparaîtront dans le chat. Je m'en ferai le porte-voix de manière à permettre à Christine et Audrey de se concentrer sur leur texte et sur leur propre concentration. Donc, je vais présenter tout d'abord Christine Planté, mais qu'on ne présente plus, tant elle a habité nos heures heureuses, en tout cas de jeune chercheuse. Moi, ça a été vraiment une de mes lectures toujours... qui m'a ouvert la voie. Donc voilà, donc c'est avec une certaine émotion aussi. Voilà. Donc Christine Planté est une professeure émérite à l'Université de Lyon 2, membre de l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités. Travaille dans une perspective de poétique historique sur les écritures, les théories et les représentations du masculin et du féminin en littérature. Elle s'intéresse notamment, mais pas seulement, à la littérature française du 19e siècle. Elle dirige la collection des deux sexes et autres aux presses universitaires de Lyon. Elle préside aussi la Société des études sur Marceline Desbordes-Valmore et est responsable de sa publication « J'écris pourtant », un hors-série 2020, Marie Desbordes-Valmore, poète. Vous pouvez commander sur le site de l'association. Donc, parmi ses nombreuses publications figure ce classique que je pense tout le monde a lu ici, hein, La petite sœur de Balzac, essai sur la femme auteur, qui était paru en 1989 et qui est, et c'est très heureux, republié depuis 2015, avec une postface inédite. Donc, je remettrai les publications de Christine Planté, certaines de ses publications, dans le chat, mais peut-être que pour plus précisément les thématiques abordées dans ce qui nous concerne ce matin, je renverrai plus spécifiquement à son article paru dans Clio Femmes, genre histoire, qui s'appelle « Voilà ce qui fait que votre E est muette », mais aussi « Le sexe des rossignols, où peut-il y avoir des femmes poètes ?» et puis d'autres encore, mais je ne voudrais pas prendre trop sur le temps de Christine Planté. Donc, on se retrouve à l'issue de cette première présentation. À toi, Christine.
Merci, Delphine. Je suis moi aussi heureuse de retrouver beaucoup d'entre vous et de faire la connaissance à distance avec beaucoup d'autres. Et je voudrais quand même si le temps qui nous est imparti est court, prendre un peu de temps pour remercier le collectif des organisatrices de ce colloque, hein, qui prend la suite déjà de plusieurs jours de résidence et d'ateliers. Dans la période quand même sombre, on vient d'entendre ce dialogue poétique partant de Covid qui nous le rappelle, donc dans cette période marquée d'inquiétude, ce colloque et sa tenue, c'est une très bonne nouvelle. Et par sa conception, qui a été rappelée par les organisatrices, par l'ouverture très multiple de son programme, on entend là, on sent, et je pense que c'est je joue quelque chose d'un petit peu neuf. Alors voilà, à l'orée de nos travaux, je voudrais exprimer mon point de vue et je pense exprimer celui de beaucoup d'autres participantes et participants aussi, pour les remercier de leur enthousiasme, de leur obstination aussi. Il fallait de la ténacité pour construire ce programme, pour le reconduire d'une année à l'autre en temps de Covid et hélas toujours sous forme virtuelle, avec une belle ouverture, une belle curiosité et puis en même temps un attachement ferme à quelques principes qui sont rappelés dans le programme, dans le blog. Voilà. Et en particulier, je me réjouis bien sûr de la part majeure faite aux poètes, hein, tous les espaces sont souvent très séparés. Et de cette volonté de ne pas séparer donc création et recherche savante, présent et passé, ni les langues, on vient de l'entendre admirablement dans ce dialogue ouverture. Alors, bien entendu, en visio et à distance, c'est beaucoup moins bien. Un message est en train de me dire que ma connexion Internet est instable et je n'y peux rien. Si c'est trop mauvais, il faudra me signaler, éventuellement je couperai la vidéo, ou bien à un moment donné j'arrêterai parce que je ne peux pas faire mieux pour l'améliorer. Donc nous inventons avec tous les aléas techniques et dans l'espoir que, comme cela est suggéré en ouverture, ce n'est que le temps premier de rencontres à venir dont les formes sont encore à inventer. Alors, après ce beau dialogue poétique en ouverture, nous entamons un sujet assez austère que nous rappelait Delphine Meudier sous le titre « Question de catégorisation ». Il semble, s'il faut, demandez-moi qu'il y a des problèmes de connexion, demandez-moi de couper ma vidéo si c'est trop mauvais. Donc, ces questions de catégorisation pourraient s'annoncer extrêmement décourageantes par leur abstraction si nous ne savions pas toutes et tous pas bien spontanément de quoi il est question ici, hein, donc comment nommer ces êtres femmes qui écrivent de la poésie, où les ranger, où se rangent-elles, ou bien où dérangent-elles, hein, et si nous ne savions aussi qu'il est impossible d'échapper à ces questions, comme confesser au seuil de mon propos, bien qu'ayant beaucoup travaillé sur ces sujets, Delphine a rappelé quelques titres, une certaine difficulté et un certain découragement renforcé par la distance de la visio, mais aussi parce qu'il y a tant à dire. Alors, en termes forcément sommaires, hein, pour plus de détails et de démonstrations, je vous renvoie à un certain nombre de textes qui seront cités en référence, certains accessibles en ligne, je me propose d'abord, tout simplement, d'essayer de formuler, faire le point sur l'état de la question aujourd'hui, telle qu'en tout cas je la définirais, et certainement pas la façon de toutes et tous, avant de revenir sur l'émergence progressive de cette catégorie de la littérature des femmes féminines, d'une poésie des femmes, de femmes ou féminines. Et comme Audrey Lasserre fera cela très bien pour le XXe siècle, je vais passer assez vite sur ce point pour m'arrêter sur quelques temps sur les formulations employées, écrites, les catégories, et de façon qui paraîtra peut-être un peu provocatrice dans ce colloque, à partir de formulations d'hommes qui ont tant pesé dans ce XIXe siècle sur lequel je travaille de façon privilégiée. En particulier sur deux poètes dont je donne d'emblée le nom pour éclairer mon titre. Mon titre est fait d'un montage de citations infléchies qui empruntent un peu inattendue en cette affaire à Paul Claudel et à Baudelaire. Et puis, si j'en ai le temps, si je ne l'ai pas, c'est le colloque même qui constituera ce temps pluriel de réponses, j'essaierai de me demander ce qu'on peut faire de cette catégorie des femmes et du féminin aujourd'hui. Question inévitable et question intraitable, j'aurais envie de dire en exergue qu'il n'y a pas d'écriture féminine, doit être dit avant de commencer, et c'est commettre une erreur qu'utiliser et propager cette expression. Tout le monde aura alors reconnu les propos de Monique Wittig dans l'avant-note à sa traduction de La Passion de Djuna Barnes en 1982, dans la collection Textes Flammarion que dirigeait Bernard Noël. Cette formule s'inscrivait alors dans des débats passionnés dont on a une mémoire maintenant lointaine et sans doute déformée, et pour des raisons qu'on a peut-être du mal à comprendre, puisque sous les mêmes mots, féminin, féminine, écriture féminine, les enjeux se déplacent, même si les mots demeurent les mêmes. Alors, sans revenir sur ce temps, je voudrais faire observer qu'il n'est pas posé, ce que j'avais un temps songé à faire, qu'il n'y a pas de poésie féminine et que cela doit être dit avant de commencer. D'abord parce que dans cette formulation, il n'y a pas de poésie féminine, on risque d'entendre refuser, non pas seulement l'idée qu'une poésie produite par des femmes peut et doit être caractérisée comme féminine, mais aussi l'idée qu'une poésie écrite par des femmes ne peut pas être considérée pleinement comme poésie. Et puis aussi parce que même à adhérer pleinement à cette expression « il n'y a pas de poésie féminine » en acceptant tous les risques, on se verra très vite renvoyé à de multiples contradictions. Faut-il du coup refuser de publier dans des numéros spéciaux, dans des collections dédiées, dans des colloques, par exemple consacré aux poétesses ou aux femmes poètes, tout lieu qu'il semblerait difficile de bouder totalement au nom d'une pureté théorique. Donc, on ne se débarrasse pas ainsi de l'ensemble, fut-il artificiel, des femmes poètes, ni de la catégorie du féminin, en disant « mais après tout, ne faisons pas tant d'histoire, au diable les classements, écrivons, lisons, chantons, performons, et peu importe ». Sauf que les modes d'existence et de diffusion de ces créations et de ces productions et la langue française elle-même rendent impossible d'évacuer définitivement la question. Le problème est admirablement résumé dans le titre du colloque qui nous rassemble, qui a été commenté ce matin par Lina Hig, hein, dans une graphie qui est une provocation d'une complication embarrassée et en même temps joyeusement assumée, poétesse, jonglant entre féminin et masculin, neutre, générique peut-être sous forme de masculin, singulier et pluriel, français et anglais, avec des points, des tirets, et beaucoup de S, dont ce SS central qui personnellement me chagrine, et puis aussi la perte d'un accent caractéristique du français, et ceci m'amène à mon deuxième temps de réflexion introductive. Cet embarras devant les femmes qui écrivent de la poésie, les femmes poètes, est-il une singularité française ? Non, bien sûr, le statut des poètes femmes fait question ailleurs qu'en France, mais en France, il est certainement particulièrement vif pour des raisons d'histoire, un deuxième temps, et aussi pour des raisons qui tiennent à la langue et font débat passionné aujourd'hui dans toutes les questions d'orthographe inclusive. Alors, je rappelle au moins trois niveaux de difficultés avec la langue que souvent, on a tendance à séparer ou à ne pas traiter simultanément quand on tente de les résoudre. D'abord, bien sûr, l'obligation de l'accord qui marque à travers le genre grammatical le sexe des locuteurs et lui confère une très grande visibilité. Je rappelle, je vais y revenir, qu'en poésie, cette visibilité est prolongée, relayée, amplifiée par entre autres, la loi d'alternance des rimes, dans ce qu'elle a de spécifique, ce rapport du masculin et du féminin. Deuxième niveau, l'absence grammaticale de genre neutre, subsistant qu'à l'état de trace, qui entraîne le fait que le masculin fait fonction ou est supposée faire fonction de neutre ou de générique, mais que dans l'exercice de cette fonction, on peut dire qu'il conserve, pour bien des locuteurs, des auditeurs, des auditrices, des locutrices, des attributs et des valeurs du masculin. Dernier niveau, la célèbre désormais règle dite du masculin qui l'emporte, qui empêche la visibilité des femmes dans des ensembles mixtes et donc contraint à passer obligatoirement par un entre-femmes séparé si l'on veut acquérir une visibilité collective. Les poètes, impossible de savoir s'il y a des femmes. Les poétesses sont visibles et audibles, mais elles sont femmes et à part. Dans la fraternité des poètes, si importante au XIXe siècle, entre eux et entre poètes et lecteurs, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, les femmes ne sont pas, ne peuvent pas être des frères comme les autres. Ce sont, au mieux, des sœurs. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. La sœur est là aussi, chez Baudelaire, mais en une place tout autre, bien sûr, celle du frère. Une place parfois exaltée, mais assignée et seconde. Il est possible que le frère, le semblable, l'hypocrite lecteur écrive, la sœur perdrait de sa douceur désirable à le faire. Et si elle le fait, elle devient poétesse ou écrivant de la poésie féminine. Alors, comment apparaît cette catégorie moins évidente et moins éternelle qu'il n'y paraît? Bien sûr, non pas à toute époque, mais à de nombreuses époques, il y a des femmes qui écrivent, qui publient ou lisent des poèmes. Elles sont rarement admises absolument sans difficulté ni résistance, mais la résistance ne passe pas forcément par la mise en avant d'une catégorie définie ou les située. Et on peut considérer ceci d'un double point de vue. C'est une marginalisation ou un enfermement dans un ghetto. C'est une façon de prendre acte de ce qui existe et une forme de reconnaissance. Reconstitution passerait en France, commence sous l'Ancien Régime, et commencerait par la postulation avant d'une poésie féminine de genre féminin, notamment le genre épistolaire dès la Bruyère, puis de style féminin ou de façon d'écrire femme, comme dit Suard, et puis va au XIXe siècle se développer en l'affirmation d'une littérature des femmes, que cette affirmation soit valorisante, même ignorante, chez un critique comme Sainte-Beuve, ou qu'elle soit violemment hostile, qui trouve dans toute la littérature féminine une odeur d'iffémina. Cette consistance progressive de la catégorie prend appui sur une pratique de publication et sur la façon dont circulent les textes. Marilyn Hacker vient d'évoquer le rôle des anthologies, celles des années 70 et de l'essor du mouvement féministe dit de la deuxième vague, dans sa formation, ceci commence dès le début du XIXe siècle avec la publication de dictionnaires, d'anthologies, de livres d'histoire ou de livres d'extraits qui rassemblent alors d'abord des femmes remarquables dans tous les domaines, puis des femmes qui écrivent, puis des femmes qui écrivent de la poésie. Ces ouvrages sont généralement bien intentionnés à l'égard des femmes puisqu'ils sont destinés à prouver qu'elles existent, à les faire connaître et lire, donc aussi à proposer des modèles à des lectrices et éventuellement à quelques lecteurs. Mais bien sûr, ils accomplissent cette utilité en les groupant à part et en les faisant donc apparaître colorées de cette couleur du féminin ou accompagnées de cette odeur du féminin. Dans ce processus sur un temps long, le XIXe siècle constitue un moment décisif. Alors, je dirais d'abord parce que s'y opère simultanément une redéfinition des rapports sociaux de sexe et donc d'un point de vue politique et social, et parce que se redéfinit la littérature au sens moderne dans ses fonctions et dans ses catégories et ses hiérarchies. Alors, côté histoire politique et sociale, on peut dire que le XIXe siècle est fâcheux pour les femmes, après la Révolution et sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui engage dans l'invention d'une démocratie exclusive, si on veut formuler les choses comme Geneviève Fraisse. On entre dans un vaste mouvement vers une modernité que l'on peut dire masculine, comme Yann Viennot, et on voit à l'orée du XIXe siècle, Napoléon, que l'on célèbre non sans contradiction en ce moment, placé avec le code civil et le code pénal, l'ordre inégal des sexes et la domination des femmes au principe de l'ordre social. Donc, il n'y a pas matière à se réjouir si ce n'est que des femmes sont présentes à toutes les étapes et en presque tous les lieux dans ce mouvement vers la démocratie et vers la modernité, résistant à leur exclusion. Côté littérature, dont émerge alors la conception moderne, et notamment sous la plume et dans la pensée d'une femme, Madame de Sales, avec de la littérature, on voit les genres se redéfinir et la poésie, notamment la poésie lyrique, revenir en force au sommet ou au centre symbolique de l'édifice. Alors, dans un siècle d'une extraordinaire fécondité pour la production poétique, marqué entre autres par le fait que désormais la poésie ne saurait se définir exclusivement par le vers, même si le vers est conservé, évolue et fait l'objet de réinventions remarquables. On sait désormais qu'il peut y avoir des vers sans poésie ou sans inspiration, dira-t-on dans un modèle romantique, et qu'il peut y avoir de la poésie sans vers, prose poétique, poème en prose, vers libre, verset. Or, ceci est important pour la question qui nous occupe, parce que du côté des vers, la réinvention va se heurter à la présence du féminin dans la langue, série masculine et féminine, et puis plus largement le traitement du e muet, dont je ne vais pas parler ici. Et du côté de l'abandon ou du rejet du vers, eh bien, on se heurte à une question fondamentale, si ce n'est plus le vers qui est marqueur nécessaire et suffisant de poésie, qu'est-ce qui garantit que le poème est poème? C'est la personne même du poète, sa désignation, sa reconnaissance. Et poème, ce qui est écrit par un poète, un poème en prose de Baudelaire, publié humblement en rez-de-chaussée d'un journal quotidien où il ressemble à une chronique, un article ou une chose vue, est un poème parce qu'il est écrit et signé d'un poète, même si celui-ci a perdu son auréole et le reconnaît. La réussite de cette opération qui fait la prose poésie et de procédure d'identification est-elle possible lorsque c'est une femme qui est poète ou se dit poète? On comprend bien que c'est beaucoup plus compliqué. Je considère que Marceline Desbordes-Valmore a laissé quelques textes qui font partie des premiers poèmes en prose, au sens moderne, au moment où Aloysius Bertrand invente le genre, ainsi que le sacrera rétrospectivement Baudelaire. Mais elle ne l'a pas dit, elle ne le revendique pas, et elle l'a fait sous des titres et en des lieux tels, si marqués de féminin et de marginalité, qu'il était à peu près impossible de voir là une invention poétique majeure et qu'il rendait cette invention invisible. L'aurait-elle revendiqué qu'on la lui aurait probablement contestée? C'est ce qui se passe à la fin du XIXe siècle quand Marie Krasinska revendique, elle, haut et fort, l'invention du vers libre, non sans raison, cela lui vaudra surtout d'être tourné en ridicule avant d'être longtemps totalement oublié. Donc, dans ce long processus, je m'arrête sur trois étapes et trois formules. La première, accompagnant ce moment où les femmes prennent conscience de leur exclusion de la démocratie et de la fraternité des poètes, dans un lieu, la décade philosophique, qui marque les dernières années du XVIIIe siècle, sous la plume d'un poète oublié, et Couchard Lebrun, dans un poème intitulé « Ode aux belles qui veulent devenir poètes ». Vous voulez ressembler aux muses, inspirez, mais n'écrivez pas. poème galant, où derrière la galanterie, on perçoit une bien réelle violence symbolique et sociale. Celle qui veut que, pour une femme, écrire de la poésie spécifiquement équivale à une perte de féminité, d'identité féminine, donc à une perte de pouvoir de séduction hétérosexuelle, du moins. Lecture inspirée de Rowe comme tout un courant contemporain, produisant d'un point de vue social la lourde condamnation à la marginalité du célibat. Notons cependant que ce poème n'implique pas une totale négation ou un total effacement des femmes qui écrivent des vers, de la poésie. Bien plutôt, il témoigne du fait qu'elles existent et font problème, et apparemment un problème sérieux. Donc, nous sommes sur la fin de la période révolutionnaire, on peut s'étonner que pendant plusieurs mois, dans la décade philosophique, plusieurs hommes et femmes reviennent longuement sur ces questions avec passion, pour y défendre l'ordre qu'ils sentent menacé par ces belles qui veulent devenir poètes, à travers le recours à deux grandes formes d'argumentation, la mythologie, les muses, et la nature, en particulier le modèle des oiseaux, que je ne commenterai pas ici. Et puis, un petit peu, très peu, l'histoire et l'histoire poétique, et en particulier à travers la référence à Sappho, quelques noms aussi de la tradition française. Et de nouveau, on se dit que sont importants, autant qu'imparfaits, ces manuels, anthologies, dictionnaires, recueils qui attestent de la présence passée des femmes et de leurs écrits. Dans ces débats, on s'aperçoit qu'est constamment affirmé un dualisme fondamental. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a ce que peut faire chacun des sexes. Mais ce dualisme ne se joue pas et ne se réglemente pas toujours au même niveau. Une opposition fondamentale voudrait que les hommes puissent écrire, les femmes non. Cela devient, dans des courants plus progressistes, la possibilité d'écrire de la poésie et tous les genres pour les hommes, d'écrire dans des formes plus humbles et moins ambitieuses pour les femmes, des lettres par exemple. Et puis ensuite, peut aussi être admise la possibilité d'écrire de la poésie pour les femmes à condition qu'elles se cantonnent à certains genres et certains sujets et respectent et délaissent l'ode. C'est toujours un dualisme normatif et hiérarchisé. On comprend néanmoins que les femmes soient sensibles au déplacement et à la possibilité ouverte d'écrire dans des lieux définis ou posés comme féminins. Je passe sur tout le moment romantique, ce qui évidemment est un scandale, mais nous n'avons pas le temps de nous attacher ni à la figure de la muse, ni à la question du lyrisme dit personnel, et j'en viens à Baudelaire et la violente contradiction que je lui ai empruntée pour figurer dans mon titre. Je lis le passage. Plus d'une fois, un de vos amis, comme vous lui faisiez confidence d'un de vos goûts ou d'une de vos passions, ne vous a-t-il pas dit « Voilà qui est singulier, car cela est en complet désaccord avec toutes vos autres passions et avec votre doctrine. » Et vous répondiez « C'est possible, mais c'est ainsi. J'aime cela, je l'aime probablement à cause même de la violente contradiction qui trouve tout mon être. » Tel est mon cas vis-à-vis de Madame des Bordes-Valmore. L'article paraît en 1861. Il a été écrit un petit peu plus tôt. Il paraît dans sa première partie absolument dominé par une idéologie du féminin extrêmement hostile aux femmes poètes, avant de basculer à la fin dans une sorte de magnifique poème en prose où on voit s'opérer une remarquable confusion des genres, de la position de l'auteur et du lecteur dans ce que Baudelaire appelle l'explosion lyrique et les hysterical tears. En somme, que dit Baudelaire dans l'attaque d'articles que j'ai lus ? J'aime Marceline Desbordes-Valmore, bien que ce soit elle et bien que ce soit moi. Forte formule d'une rencontre aussi forte à sa façon, car parce que c'était lui, parce que c'était moi, qui vient reconnaître ici la puissance et les effets d'une poésie écrite par une femme, élue par un homme, sans cependant que l'opposition soit donnée d'entrée de jeu comme celle du masculin et du féminin. Violente contradiction qui reprend et déplace la contradiction formulée de façon encore galante par Écouchard Lebrun, galante et plus sereine peut-être parce que appuyée sur la certitude d'une domination légitime dont cependant le présent invitait déjà à douter. Cette formulation plus violente est aussi infiniment plus vivante, féconde et dynamique. Et du même mouvement dit un besoin des femmes ou du féminin, peut-être le féminin étant le nom de ce principe même de contradiction. Alors, bien sûr, c'est Baudelaire, Baudelaire qui affirme que Sappho entre tous l'a choisi sur la terre, et cette position n'est pas nécessairement universellement partagée. Néanmoins, elle fait désormais du féminin une valeur, ce qui n'ouvre pas pour autant l'exercice de la poésie et sa publication aux femmes poètes, loin de là. Le troisième temps, et je m'aperçois que j'ai perdu là un document, serait celui de Paul Claudel, donc je passe par-dessus le long moment du symbolisme et de la décadence, et je mentionne simplement cet événement à la fois mineur et très important, l'inclusion par Verlaine de Marceline Desbordes-Valmore dans la deuxième série des Poètes maudits, donc une femme bien affirmée et saluée comme femme, mais élue dans un ensemble, faut-il dire un ensemble d'hommes ou un ensemble mixte, c'est peut-être toute la question. Donc, mon dernier temps sera au début du XXe siècle avec Paul Claudel, à qui j'ai emprunté les formules vindicatives, revendicatives de quel compte don fait-on des femmes. Et donc, ces formules, je les prends dans la quatrième des cinq grandes odes, dans l'antistrophe où parle la muse, qui prend à partie vigoureusement le poète. Que m'importent toutes vos machines et toutes vos œuvres d'esclaves et vos livres et vos écritures, ô vraiment fils de la terre, ô pâteau au large pied, ô vraiment né pour la charrue arrachant chaque pied au sillon, je passe un peu, ce n'est point avec le tour et le ciseau que l'on fait un homme vivant, mais avec une femme, ce n'est pas avec l'encre et la plume que l'on fait une parole vivante, quel compte donc fais-tu des femmes, tout serait trop facile sans elles, et moi, je suis une femme entre les femmes. Ligne impressionnante, qu'on ne s'exalte pas trop vite, c'est la muse qui est la grâce qui parle, le poète va d'ailleurs résister à ses exhortations et à sa suggestion, et c'est ici un principe idéalisé. Néanmoins, désormais, semble de plus en plus évident et incontournable que pour faire un poème vivant, il faut ce qui est appelé du féminin, peut-être dans une poursuite de ce besoin de contradiction ou de principe contradictoire. Poésie sur l'horizon de mouvements sociaux, bien sûr, d'une naissance des mouvements féministes et de leur développement, et aussi de la multiplication des femmes poètes et de leurs publications. Difficile de séparer tous ces domaines, difficile de ne pas entendre que désormais le féminin est peut-être d'autant plus volontaristement nommé, désigné, identifié, cartographié, que des femmes insistent et que se pose la question de la relation entre ces femmes présentes, concrètes et écrivantes, la femme idéalisée et ce qu'on appelle le féminin. Je conclus. Il est clair que ni du féminin, ni du mouvement même de la catégorisation, nous ne pouvons nous débarrasser. Il semble clair aussi, du moins pour moi, qu'on ne peut les mobiliser ou s'en revendiquer sans réticence et sans ambiguïté, puisque à chaque fois, on a vu que cette affirmation de la catégorie obéissait à un double mouvement de reconnaissance, mais surtout de marginalisation ou de minoration. On ne peut se situer difficilement dans cette contradiction qui n'est plus peut-être aussi violente aujourd'hui ou dont la violence s'est déplacée en d'autres lieux, qu'à la penser, qu'à l'écrire, dans la mémoire de cette histoire et de ses enjeux et en sachant combien elle est instable. Alors peut-être aujourd'hui, on éprouve moins le sentiment d'une violente contradiction, encore qu'il y ait bien des lieux et des expériences sociales où ce soit le cas, entre masculin et féminin, et hommes et femmes, que l'émergence d'une heureuse pluralité ouvre plus largement les choix et les postures, tant que dominait le régime de la contradiction et de la poésie féminine. Les choix étaient plusieurs, mais ils étaient limités. On pouvait adopter le féminin, au risque de la minorisation, ghettoisation, le refuser et jouer dans un neutre universel qui pouvait toujours être reçu comme masculin et comme une usurpation, aspirer au neutre, je pense que c'est ce dont parlera un peu plus tard Benoît Auclair, ou encore inspirer à l'androgyne et à la multiplicité des cases. Aujourd'hui, on peut ouvrir le champ des possibles, se jouer de l'instabilité. Gardons cependant en tête que souvent ce jeu passe par une reconvocation du féminin, qu'on le déjoue, qu'on l'imite, qu'on le parodie ou qu'on l'exalte, et que l'affirmation de la catégorie d'une écriture ou d'une invention dans la langue pour se vouloir affirmation est une menace, celle de l'enfermement. Comment y échapper ? Probablement en écrivant, en inventant, en acceptant aussi les moments d'incertitude et de difficulté. Chacune ou chacun peut évoluer ou se contredire. Chacune ou chacun peut essayer simultanément des solutions diverses. Et je m'arrêterai là parce que je vois que le temps a passé. Je vous remercie en vous priant d'excuser la longueur.
Merci beaucoup, Christine. Je croyais qu'on avait jusqu'à 11h30, mais apparemment, ce serait plutôt 11h15, mais on va tirer quand même un petit peu. On va prendre quelques questions pour Christine. Je propose qu'on écoute d'abord Audrey et qu'ensuite on rassemble les questions. Comme ça, ça nous permettra de vous laisser toutes les deux le temps qu'il convient. Donc, Audrey Lasserre, pardon, je me réjouis aussi d'entendre. Hein. Audrey est historienne du littéraire, elle est spécialiste des rapports entre littérature, genre et féminisme au XIXe et XXIe siècle. Elle est primée par le GIS, Institut du genre, en 2015 pour ses recherches sur les mouvements des femmes et la littérature, notamment sa thèse très importante sur l'histoire des écrivaines dans les années 70. Les écrivaines et le féminisme. Elle travaille actuellement sur les écrivaines francophones et le féminisme, tout en étant collaboratrice scientifique de l'Université de Louvain et chargée de cours au sein du master genre des 6 universités francophones de Belgique. Donc, parmi ses contributions récentes figure le numéro de la revue Francophonia. Le concept de genre a-t-il changé les études littéraires d'expression française, paru en 2018. Et puis, elle a dirigé avec Christine Planté, et puis le volume également, Se réorienter dans la pensée, femmes, philosophie et art, autour de Michel Ledeuf, qui faisait suite à un colloque qui était consacré à l'œuvre de Michel Ledeuf. Et qui est dirigée, cette publication avec Jean-Louis Genel. Elle a également co-dirigé un ouvrage « Les féministes et leurs archives » qu'elle a co-dirigé, qui est à paraître aux presses universitaires de Rennes. Et elle est aussi membre du groupe FNRS « Relire les cahiers du Griffe » et présidente adjointe de l'association des archives du féminisme, association dont elle est présidente adjointe depuis 2018.
Donc, on écoute Audrey Lasserre, dont l'intervention est intitulée « La poésie féminine, histoire d'une catégorie critique et de ses enjeux au XXe siècle ». Alors, tu as aussi 25-30 minutes, on va te laisser jusqu'à 11h15 et on se réservera le dernier quart d'heure. On n'aura pas de pause, mais c'est pas grave, ou on prendra 5 minutes pour répondre aux questions qui seront adressées à Christine Planté et Audrey Lasserre.
Merci Delphine, je vais essayer de faire moins en fait, pour qu'on ait vraiment le temps d'échanger et de discuter, enfin je vais essayer, voilà. Alors moi aussi je voulais vous remercier d'avoir organisé cet événement, je vais faire très court puisqu'on manque de temps, mais voilà, je partage tout ce qui a été dit précédemment, et je partage aussi ce que Delphine Audier a dit des prédécesseuses, en l'occurrence moi aussi en tant que jeune chercheuse, je me suis construite avec les travaux de Christine Planté, mais aussi avec ceux de Delphine Audier, donc il y a une certaine émotion à être là, parce que je commençais ma thèse quand Delphine terminait la sienne. Et puis, il y a un troisième nom que je vais invoquer ici, puis je vais y revenir au moment de ma communication, c'est Michel Touret, qui nous a quittés en 2015 et qui était une historienne de la littérature française du XXe siècle. Et puis, je vais mobiliser l'échange qu'on a pu avoir à certains moments sur ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui se fonde sur les recherches que j'ai entreprises il y a maintenant 10 ans sur les ouvrages d'histoire littéraire française ou d'expression française et leurs pratiques que j'ai interrogées en fonction de la question du genre, hein, compris comme système. Delphine, normalement, va mettre en fait les références que vous pourrez aller voir si vous cherchez à en apprendre plus, notamment la première étude sur les histoires de la littérature française publiée à partir de 1943. Donc ça, ce sont les grands principes qui se dégagent, c'est paru en 2009. Ensuite, il y a le numéro de Fabula que j'ai dirigé en 2010 sur les femmes et l'histoire littéraire. Et c'est de ce numéro-là, en fait, qu'est né l'échange avec Michel Touret, puisqu'elle avait dirigé le volume « L'histoire de la littérature française 20e-21e » aux presses universitaires de Rennes, et qu'elle avait en particulier rédigé le sous-chapitre consacré à la poésie féminine. Et puis, il y a eu une dernière publication spécifiquement sur cette question-là qu'on m'avait commandée, qui est une étude du contemporain dans les histoires de la littérature, et ça, ça a été publié en 2015. Et si ça vous intéresse, il y a un tableau de synthèse avec toutes les statistiques que je reprends, notamment sur les histoires de la littérature 20e, 21e, mais publiées récemment, c'est-à-dire depuis 2000. Voilà. Alors, à chaque étape, à l'exception logique du contemporain, mais là vous allez comprendre après pourquoi, en fait j'ai croisé la question de la poésie dite féminine, et depuis le début en fait, comme mouvement historiquement défini par les historiens et les historiennes. Donc ce que je vais essayer de tracer aujourd'hui à travers cette histoire esquissée d'une catégorie critique au XXe, c'est d'abord catégorie critique pour l'histoire littéraire, donc c'est, voilà, c'est quand même assez particulier, même si ça reprend les grands traits que Christine a pu définir par avant. Et c'est donc ce qu'elle nous apprend, cette fabrique de l'histoire de la littérature, non seulement de la discipline, ça c'est un peu une cuisine interne, mais aussi et peut-être surtout ce qu'elle nous apprend de la perception de la pratique littéraire par les femmes. Voilà, c'est ça que je vais essayer de faire avec vous. Alors, pour en venir là, donc je résume à grands traits ce qu'il nous faut retenir des femmes et du féminin en histoire littéraire. Je ne redis pas ce que Christine a dit, mais vraiment je me concentre sur l'histoire littéraire de la littérature française des 20e et 21e. D'abord, ce qu'on peut constater, donc plus d'une quarantaine de volumes consultés, c'est le peu d'autrices présentes sur le XXe siècle, toujours confondues. Par rapport aux chiffres de référence dont on pourra discuter, on a clairement une minoration des femmes de lettres et de leurs textes de façon générale, alors que la plupart des histoires littéraires du XXe font du XXe siècle justement le moment de l'égalité enfin obtenue, y compris dans le monde des lettres, donc sans reproduire ce constat dans leur propre pratique. Puisque si je parle de minoration, c'est bien qu'en fait, en moyenne, il y a pour... et de leurs œuvres. Et si on regarde en notice, pour le coup, on va arriver à peu près 5% seulement en notice pour 95% d'hommes. Donc, en effectuant ces repérages et ces calculs qui montraient clairement une minoration de la part des femmes et de leurs œuvres dans les histoires de la littérature, c'est là, en fait, que j'ai découvert la pratique systématique dans la présentation des histoires de la littérature, du regroupement, en tout cas, clairement pour celles écrites dans les années 50, des femmes dans un article d'ensemble en fonction de leur sexe social. On a donc un chapitre, ou plus probablement un sous-chapitre, sur les romancières ou les romanciers féminins ou le roman féminin ou les poètes femmes ou la poésie féminine. Voilà. Alors, puisqu'on s'intéresse à la poésie, je n'ai pas de statistiques par genre littéraire à vous proposer parce que la question est problématique. Il faudrait avoir des chiffres de référence pour le siècle, ça c'est le premier problème, parce que ceux que j'ai pour l'ensemble de la pratique, je les ai par la Maison des écrivains et de la littérature ou par la Société des gens de lettres, mais voilà, pour les pratiques génériques, ça devient plus compliqué. Et puis, pour le propos même de l'historien ou de l'historienne, eh bien, tout ne se classe pas en fonction des genres. Il y a aussi des propositions de lecture en histoire de la littérature qui ne coïncident pas forcément avec ces questions. Néanmoins, si je prends l'exemple d'une histoire de la littérature qui est d'ailleurs récente, c'est l'histoire de la France littéraire, qui a été donc dirigée pour le volume 19e-20e par Patrick Berthier et Michel Jarty, et qui est regroupée par genre, donc là ça nous donne une assez bonne idée. En fait, le nombre d'autrices traitées dans l'éclatement poétique qui est signé par Jean-Michel Maulpois en fait, correspond à la place des femmes et des hommes dans l'ensemble du volume, c'est-à-dire 6% de femmes pour l'intégralité de cette histoire. Et on remarque un grand mouvement qui, je pense, néanmoins, vaudrait pour les hommes si on avait le temps d'effectuer précisément le calcul, à savoir que très clairement, les femmes qui produisent au 19e siècle sont légèrement plus présentes que celles qui produisent au 20e. Hein. Non, l'inverse, pardon. Les femmes qui produisent au 20e, 36 sont plus présentes que celles qui produisent au 19e, 31. Mais surtout que les romancières, c'est ça qui va nous intéresser, sont plus présentes que les poétesses, elles-mêmes plus nombreuses que les dramaturges. Voilà le classement. Mais je pense que sur l'ensemble du siècle, en tout cas pour le rapport roman-poésie, on pourrait trouver exactement la même chose du côté de l'inventaire des œuvres écrites par des hommes. Les plus citées dans l'index, toujours de cette même histoire, sont Colette, Beauvoir, Sarraute, Duras, Yourcenar et Kristeva, et elles sont toutes citées comme romancières, à l'exception de Kristeva, qui est convoquée comme critique et participante à telle qu'elle. Donc, dans les figures de proue, je dirais, on n'a pas de poète. Voilà. Pour aller très très vite, pas d'amélioration significative malheureusement dans le contemporain. Certes, la présence augmente visiblement à la faveur de la contemporanéité. Pour le dire autrement, il y a plus de femmes mentionnées pour la période contemporaine que en général, mais on parle tout de même de 12% sur la période contemporaine, alors que les indicateurs placent la pratique dite réelle à 40 voire 50%. Hein. Encore une fois, 12% au lieu de 6. On n'est pas sur une évolution. On est sur une évolution significative, mais pas majeure. Voilà. Il y a dans l'ensemble de ce corpus des stéréotypes de sexe. Là, je ne pourrais pas développer, mais séduction, vous allez retrouver dans quelques citations que je vais donner. Séduction, beauté, nature, naturelle, on l'a entendu dans les citations de Christine, animalité, amateurisme, voilà, qui existent. Et ces stéréotypes, et le féminin est un qualificatif très clairement considéré comme valable du point de vue critique. Valable, effectif, on le retrouve hein, dans les textes, efficace, ça permet de classer, et en général, je dis bien en général, puisqu'il y a des exceptions, une catégorie dépréciative en termes de littérarité, c'est-à-dire que ce qui est évalué comme littéraire n'est généralement pas féminin, ou quand c'est féminin, on a une dépréciation de la littérarité. Et puis, c'est une catégorie prescriptive, puisqu'elle assigne des genres, des manières, des sujets dits littéraires aux écrivaines. Elles sont réputées écrire plutôt ça que ça, de cette façon-là, plutôt que. Voilà. Alors, cette configuration d'ensemble m'avait amené d'une part à me demander si les femmes avaient une histoire littéraire, et la question, on peut la transférer à la poésie. Tant les histoires littéraires de la France ou les histoires de la France littéraire qui existaient, existent, confrontaient leurs lectrices et lecteurs à certains silences, pour reprendre l'expression de Michel Perrot. D'autre part, à postuler, et on l'entend déjà dans ce que disait Christine, l'existence d'un paradigme dominant qui fonderait symboliquement la littérature sans les femmes, les plaçant paradoxalement du côté d'un féminin futur résolument innovant parce que résolument inédit. Toujours à venir ce féminin qu'on attendrait, mais qui ne peut fonctionner parce qu'il n'y a pas de littérature ou de poésie écrite par des femmes. Quand je dis il n'y a pas, c'est il n'y aurait pas dans le discours critique. Voilà. Alors venons-en dans cette configuration générale à la poésie féminine. De Maurras à l'histoire littéraire. Le sous-chapitre qui est consacré à la poésie féminine, quand il y a un sous-chapitre consacré à la poésie féminine, en fait, correspond à la pratique d'un chapitre répertoire des femmes qui écrivent. Delphine Naudier l'avait déjà constaté dans sa thèse. On retrouve le même phénomène pour les chapitres sur le roman féminin et la littérature féminine. Donc, je vais y revenir, il y a un chapitre ou un sous-chapitre consacré à cette entrée critique. Bien évidemment, on le sait, il y a, et puis on le lit, il y a une interférence nette ou une superposition entre l'adjectif féminin comme une qualification qui présente des traits du féminin et puis l'adjectif comme une relation qui appartient aux femmes, qui est produite par les femmes sans qu'on définisse le contenu. Donc là, c'est constamment entremêlé. On n'arrivera pas à trouver une occurrence où on se sort de cette superposition-là. Mais le sous-chapitre consacré à la poésie féminine répond aussi à une autre logique. Et c'est celle de rendre compte d'une classification d'époque. Et c'est là que commence à intervenir la discussion que j'ai pu avoir avec Michel Touret au moment de la préparation du numéro, donc LHT numéro 7, sur l'histoire littéraire et les femmes. Michel Touret, on va y revenir, lorsqu'elle choisit d'utiliser cette catégorie et de la faire réapparaître dans son histoire de la littérature, le fait parce que pour elle, c'est une classification qui a été employée à l'époque et qui mérite d'être traitée comme telle. Voilà, donc commençons par là. Or, ce qui n'est pas dit dans la plupart des histoires de la littérature récente, et pourtant ce qui est dit avant, c'est que ce sous-chapitre est écrit en référence à un texte de Charles Maurras qui s'intitule « Le romantisme féminin, allégorie du sentiment désordonné ». C'est un texte de 1905, que les historiens des années 45-50, les historiens de la littérature, citent et utilisent dans leurs histoires de la littérature. Et dans ce texte, Maurras affirme que certaines autrices et un auteur, dont, je cite, « le sang n'est pas de veine française très pure », fin de citation. Donc, l'auteur, c'est Rousseau, hein, sous la plume de Maurras, mais également certaines poétesses du début du siècle, donc c'est là qu'on va les trouver, Vivien, Hérédia, donc dit Gérard Douville, de la rue Mardrus et Noailles, dont traite l'article en question, doivent être distingués de ceux qui produisent, je cite à nouveau, les vraies lettres françaises. Fin de citation. Deux remarques à partir de là. D'abord, très nettement, pour employer un concept, je pense qu'on partage aujourd'hui, celui d'intersectionnalité, on voit bien au début dans cet article-là, qui est un article littéraire, qu'on a une discrimination double, le féminin et l'étranger, et qui sont discriminations de deux ensembles inextricables. C'est-à-dire que l'appellation poésie féminine qu'on va retrouver dans l'histoire de la littérature croise au tout début du moins la question de ce qu'on va appeler la race, de l'étranger, hein, et que c'est impossible normalement de faire l'économie du texte de Maurras, de ce qu'il écrit réellement et de détacher les deux questions, voire la question du féminin procède de cette question de l'étrangeté, en tout cas interrangez-les ensemble. Et d'ailleurs très clairement les historiens des années 50, alors dans le corpus, si vous allez regarder la bibliographie, c'est Kléber à Eden, c'est Henri Clouard qui partagent très clairement les idées de Maurras, reprennent la classification poésie féminine. Ils enlèvent Rousseau, hein, bien sûr, ils ne retiennent que les poètes femmes mentionnées par Maurras. Ils la mettent en œuvre dans leur histoire et à côté, dans l'ensemble de leurs textes, néanmoins, appliquent ce que j'ai appelé un droit du sol et un droit du sang linguistique. Là, je vais citer, donc l'histoire littéraire retrace à cette époque l'histoire des fils de la même langue. Et là, c'est moi qui rajoute, même si elle n'ignore pas ponctuellement les autres, notamment les femmes. De là vient, dans les années 50, la pratique de ce sous-chapitre poésie féminine comme répertoire. C'est de cette conceptualisation de l'histoire littéraire et de sa facture dans les années 50, à partir de celle-ci, on voit bien, et à partir de la question de la poésie féminine, parce que je reste sur cette question-là tout le temps, que les femmes sont traitées à part, notamment celles qui écrivent de la poésie, hein, créant un effet de répertoire. Je vais vous citer un autre historien, qui est Jovigno, dans son Histoire de la littérature française en 1950. Donc voici comment il procède. En fait, pour chacun des deux genres littéraires, poésie et roman, les écrivains sont traités d'abord dans l'article, puis ensuite, à la fin, il regroupe les femmes en énumérant la liste des femmes en fin d'article consacré donc à la poésie ou au roman. Très clairement, si l'énumération est pratiquée dans l'ensemble de l'article, chaque nom d'écrivain s'accompagne d'au moins une phrase pour justifier la pertinence de cette référence. Alors, voilà comment procède Jovigno donc, en un paragraphe pour toutes les femmes. La poésie féminine compte aussi de beaux talents, la sensuelle et perverse Renée Vivien, la subtile et parfois classique Gérard Douville, Lucide de la rue Mardrus avide d'images neuves, Rosemonde Gérard, Jeanne Catu-Mendès, Hélène Picard, Marguerite Burnin-Provins et surtout un très grand poète, la comtesse Mathieu de Noailles, dont le romantisme s'est épanoui dans un amour effréné de la vie, donc la référence à Maurras, hein, une sorte de fusion panthéiste au sein des forces naturelles, puis dans la hantise sombre et désespérée de la mort, je coupe la citation, plus récemment se sont révélées Cécile Sauvage et Marie Noël. Alors, pour tenir le temps, je vais devoir faire l'économie des images et des associations pour me concentrer sur l'essentiel. D'abord, il y a beaucoup de femmes par rapport à ce que je vais pouvoir vous montrer après. C'est une source très intéressante pour nous pour retracer des œuvres oubliées et méconnues. Hein. Mais si la liste est intéressante pour nous, elle n'est jamais bonne en termes de qualification littéraire parce que plus l'auteur et donc l'œuvre ont de place, plus la qualification est grande, plus la liste est serrée, moins la qualification est à l'avenir. Enfin, plus la qualification est à l'avenir. On remarquera aussi que lorsque l'une des poétesses est réputée par la grandeur de son œuvre, eh bien, l'historien la désigne doublement au masculin. Elle est un très grand poète, son activité, son métier, et celle dont l'identité est donnée par le nom de son mari, la comtesse Mathieu de Noailles, ce qui est presque, je le précise, toujours le cas pour les femmes mariées à l'époque, y compris dans les index. On ne va jamais trouver leur identité propre, mais celle de leur mari. Voilà. Alors, face à ce, donc il y en a d'autres, hein, des exemples où on a un sous-chapitre répertoire. Face à cela, il existe une autre possibilité, et bien tout simplement le silence, que j'ai appelé ici l'interlude, la poésie féminine, pas de féminin, pas ou peu d'œuvres de femmes. Et pour le coup, il est vrai que s'il n'y a pas de chapitre sur la poésie féminine, alors il n'y a pas, ou presque pas, de femmes qui écrivent de la poésie. Alors, je prends un exemple récent pour qu'on ne puisse pas dire que c'était dans les années 50 et pas aujourd'hui. Donc, dans les histoires de la littérature récente, je reprends l'exemple de l'éclatement poétique de Jean-Michel Maulepoix. Eh bien, aucune des poétesses dont on vient d'évoquer le nom jusque-là n'est mentionnée, tout simplement. Voilà. J'en ai fait interlude car il n'y aurait pas grand-chose à dire, si ce n'est que justement cette absence du sous-chapitre ou même de simple mention se traduit très clairement par une baisse significative du nombre de femmes et donc du nombre d'œuvres de femmes abordées dans l'intégralité de l'ouvrage. Par exemple, dans cette histoire de la littérature, donc, les femmes représentent 6% des auteurs et critiques cités, là où la moyenne est plutôt à 8. Hein. Donc, on se retrouve avec des histoires de la littérature des années 50 qui, parce qu'elles pratiquent le chapitre répertoire, vont mentionner plus de femmes que des histoires de la littérature contemporaine qui n'utilisent pas le regroupement en sous-chapitres ou en catégories. Alors, autre possibilité, elle aussi de 2006, la poésie féminine, une poésie de femmes. Que constate-t-on donc dans les ouvrages récents qui utilisent la catégorie poésie féminine et surtout comment l'utilise-t-il ? Dans le volume dirigé par Michel Touret, une poésie féminine, Anna de Noailles et René Vivien, c'est le titre du sous-chapitre. Est-ce que on est confronté à un sous-chapitre à postulant une poésie différente pour ces deux femmes aux caractéristiques féminines, pourquoi sont-elles regroupées ensemble ? Alors, clairement, c'est la première option qui est retenue par les historiennes de la littérature, comme le confirme le traitement sans introduction et en l'occurrence par la juxtaposition des deux monographies. Donc, on a ce titre, une poésie féminine, Anna de Noailles, René Vivien, et puis ensuite, on a Anna de Noailles, René Vivien. Mais en l'occurrence, dans la monographie de Anna de Noailles, en fait, on a une introduction qui va servir pour les deux. Et voilà ce qu'on nous y explique. Anna de Noailles est fort représentative à plus d'un titre de la poésie de son époque. Elle est aussi, comme René Vivien, un exemple de la forte présence des femmes de lettres dans la vie littéraire à partir de la fin du XIXe siècle, non plus seulement comme, alors là, je passe mes muses, lectrices, etc., mais comme écrivain. On ne peut se risquer à discerner une littérature féminine aux tendances propres, tant leurs choix poétiques et institutionnels sont différents, mais la femme de lettres n'est plus une exception. Alors, on voit bien comment, là, la rédaction de l'histoire littéraire a du mal avec tout ça. À la fois, on rend compte d'une classification d'époque, mais en même temps, on n'y trouvera pas, vous pouvez, si je vous lis l'intégralité, aller regarder une réflexion critique sur une historisation du terme, de son enjeu, de l'écriture de Maurras. On n'y trouve pas ça. On trouve convoqué le terme de poésie féminine, et il faut quand même le signaler parce que c'est la seule histoire de la littérature consultée qui le tente, enfin, qui essaye de faire quelque chose avec ça. Et dans le même temps, on voit qu'on a la tentation de rendre compte de la présence des femmes en général en littérature et en poésie par cette entrée-là, sans vouloir le réduire justement à une qualification des œuvres au féminin. Alors, c'est d'autant plus étonnant que quand on connaît les options défendues par Michel Touret et par le collectif qui a écrit l'histoire de la littérature aux presses universitaires de Rennes, le tout étant chapeauté par Jean Rouault, qui était un grand historien du XVIIe siècle, et très attentif au fait que l'histoire n'est pas donnée, mais qu'elle est construite, faisant l'éloge des diversités, diversité des œuvres, des artistes, non-hégémonie des grands courants, et refus d'une histoire littéraire définie par son mythe national. Voilà. Tout ça, on comprend pourquoi c'est tenté dans cette histoire-là, mais on voit à quel point il y a une difficulté à faire quelque chose de ça sans tomber dans la définition des œuvres par le féminin en y attribuant des caractéristiques spécifiques. Bon. Dans l'ensemble du sous-chapitre, il n'y aura pas un mot sur les enjeux concernant la race à l'époque. Alors, pourquoi ? Est-ce que, parce que Michel Touret s'en est défait complètement ? Est-ce que, finalement, le genre est resté alors que la discrimination liée à l'étranger semble tellement choquante qu'elle est tombée ? Voilà, ça reste des questions entières. Et dernier point, à partir de ça, on a eu une discussion avec Michel Touret sur l'effet palimpseste. Alors, cet effet palimpseste, si on suit le sens premier, donc c'est un parchemin dont on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte, ici une nouvelle histoire de la littérature, on l'a mis en lumière chacune, Delphine Naudier et moi-même, pour essayer de caractériser ce qui se passe concernant les femmes en histoire littéraire. Si vous voulez reprendre un exemple que j'ai donné, l'histoire de Jovigno dans les années 50, ce sont 10 autrices mentionnées sous l'entrée poésie féminine, alors que là, il n'en reste que deux, voire pas du tout. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que en fait, Michèle Touret qualifiait, quant à elle, l'effet palimpseste de principe même de l'histoire littérature, de la littérature dans son évolution en général. Pour elle, c'est comme ça que fonctionne l'histoire littéraire. On en écrit une première dans les années 40, et puis on réécrit dans les années 50, et puis on réécrit, etc., etc. Alors que pour moi, et Delphine dira si elle partage ce point de vue, l'effet, en fait, s'accentue très clairement dans le cas des femmes. Voilà. Mais la discussion... reste ouverte. Autre exemple que je voudrais vous donner pour esquisser les possibilités de cette histoire dans, son, dans ses réalisations, eh bien, lorsque la poésie de Noailles et de Vivien devient un exemple de littérature au pluriel, au féminin. Et là, pour le coup, c'est la citation d'une sous-section de l'introduction de l'histoire de la littérature française au XXe siècle, ou « Les repentirs de la littérature » de Mireille Kagruber. Et ça a été publié en 2001. Donc, dans cette histoire-là, qui est, il faut quand même le dire, celle qui totalise le plus de femmes mentionnées dans les histoires de la littérature du XXe et XXIe publiées récemment. Histoire mixte, hein, j'entends. C'est-à-dire presque 13%, là où les autres histoires depuis 2000 les placent en moyenne à 8% de l'ouvrage. Donc, dans cette histoire-là, Mireille Kagruber fait le choix de mentionner René Vivien et Anna de Noailles en introduction, hein, forte mention symbolique, ça n'est pas rien, et de placer un sous-titre littérature, donc au pluriel, j'insiste, au féminin, dans l'introduction. Ce qui est plus étonnant, voire même très étonnant, c'est qu'elles ne réapparaîtront jamais par la suite. Elles sont mentionnées en introduction, sous cette entrée-là, et puis plus jamais dans le reste de l'histoire de la littérature. Autre point, la poésie féminine en tant que telle, donc cette appellation d'époque qu'on peut critiquer, etc., n'est absolument pas mentionnée, elle n'est pas convoquée. Les écrivaines qui la définissent, en tout cas les deux plus importantes, hein, Noailles et Vivien, sont affectées à une autre catégorie, littérature au féminin, ce qui crée nécessairement un jeu de transfert de contenu pour celles et ceux qui connaissent les œuvres. Et pour les autres qui ne connaissent pas et qui découvrent les noms et les œuvres, il y a clairement une ambiguïté entre leurs mentions parce qu'elles sont femmes et ce qui est conféré à leur écriture. Et là, je cite Mireille Kagruber, laquelle donne lieu à des langues, des voix et des factures sans précédent. Fin de citation, c'est page 17. C'est-à-dire que ici, diversité et différence vont constamment de pair. Et puis, il y a une autre ambiguïté et qui n'est pas là, enfin, qu'on ne retrouve pas seulement dans cette histoire de la littérature là, et que moi j'avais retrouvé, mais pas sur la poésie féminine, plutôt sur les productions narratives de la deuxième moitié du XXe siècle, une ambiguïté entre femmes, féminin et féministe, c'est-à-dire que dans cette même entrée littérature au féminin, on va retrouver, en gros, elle va de Anna de Noailles à Hélène Cixous et Monique Wittig. Et donc, les femmes, parce qu'elles sont femmes, écrivent au féminin et peuvent, pour certaines, être féministes, voire produire une littérature révolutionnaire. Et l'effet de lecture, il est bien réel parce que c'est la même entrée dans l'introduction, cette entrée littérature au féminin qui se termine par la potentialité d'une littérature révolutionnaire. Voilà. Alors, pour conclure, oui, ça va. Pour conclure, que peut-on retenir de cette histoire brossée à grands traits de la poésie féminine comme catégorie critique dans les histoires de la littérature du XXe siècle? D'abord, qu'il me semble que la catégorie elle-même ne devrait pas être évitée, mais devrait faire l'objet d'une historicisation et d'une réflexion critique littéraire, parce qu'elle a beaucoup à nous apprendre et sur la littérature, et sur notre conception de la littérature, et sur notre aussi conception du genre à travers le siècle. Tout en étant, et ça c'est mon deuxième point de conclusion, extrêmement problématique dans son usage, la catégorie est explicitement la garante de la présence des femmes qui y sont associées. Dans la pratique, on ne peut pas dire le contraire. Si on a un sous-chapitre, on a plus de femmes, c'est ce que je disais tout à l'heure, que si on n'en a pas. Voilà. Est-ce qu'on doit le regretter? Ça c'est une autre question, mais c'est un fait. Troisième point, la catégorie poésie féminine est un exemple parfait de ce qui a guidé l'histoire littéraire dès ses débuts. Classement hiérarchique des œuvres, j'ajouterai en fonction du genre, vision nationaliste de la culture, système de genre en interaction, mais également comme principe même de l'histoire littéraire. Alors, dernier point, en reprenant la réflexion de Monique Wittig, donc Christine a ouvert, on ne s'est pas concerté sur Monique Wittig, moi je l'ai terminé par Monique Wittig, donc, qui disait que le concept de femme est irrécupérable, je la cite, hein, femme comme esclave est un mot, un concept irrécupérable, la réalité femme doit disparaître, de même que la réalité esclave après l'abolition de l'esclavage, de même que la réalité prolétaire après l'abolition des classes et du travail forcé. On le retrouvera dans la pensée straight. Donc, si le terme irrécupérable bénéficie donc d'une double dénotation, puisque ça ne peut pas faire l'objet d'une restauration, hein, on ne peut pas le racheter, écrit ailleurs Wittig, et il qualifie aussi une personne qui ne peut pas être incorporée dans le groupe social, politique ou littéraire. Je me demande alors comment concilier la nécessité, en tout cas de mon point de vue, de faire de la poétesse et de son œuvre une entité irrécupérable, tout en continuant de proposer une histoire de la littérature qui vaille le coup. Voilà.
Alors, merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Voilà, ça y est, j'ai remis mon... je suis désolée, j'éteins ma caméra pour chaque intervention pour avoir une bonne connexion. Donc, merci à toutes les deux. Donc, il nous reste peu de temps. Alors, je vais prendre une remarque et question qui figure dans le Frama. Mais peut-être que la personne dont je n'ai pas l'identité qui a posté ce texte pourrait le dire elle-même. Sinon, je vais le lire. Donc, cette personne dit « On a l'impression à entendre ces deux propos que l'inscription des femmes poètes dans le canon suit une sorte de mouvement circulaire, que leur reconnaissance est sans cesse recommencée au présent ou espérée au futur, comme si elles n'avaient jamais existé auparavant. Est-ce que cette perpétuelle reconnaissance, même enjouée d'une émergence et pas d'une existence suivie, n'est pas une autre stratégie d'invisibilisation ? Est-ce aussi cela que l'on nomme effet palimpseste ? Alors, voilà. Et ensuite, il y a une deuxième question qui plutôt est une remarque. Alors, dans la thèse de Michel Descodin sur la crise du symbolisme, également, René Vivien et Anna de Noailles sont mentionnés en une page sur le lyrisme féminin. Donc voilà, c'est ce qui semble être plutôt une remarque qu'une question. Enfin, c'est une précision. Donc voilà, est-ce que vous voulez répondre toutes les deux sur cette première question que je vous ai fait parvenir sur cette stratégie d'invisibilisation qui fait que l'on ne cite pas, que l'on oublie voilà, au fur et à mesure, et savoir est-ce que c'est ça qu'on nomme l'effet palimpseste ? Tu as commencé à y répondre, Audrey, mais toutes les deux, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je répondrai volontiers. Bien sûr, je dirais qu'il y a un phénomène qui est plus globalement celui de l'histoire des femmes et de la place des femmes dans l'historiographie. On manque de continuité. Hein. L'histoire s'inscrit du point de vue des vainqueurs et donc on redécouvre l'Amérique tous les 30 ans ou tous les 50 ans. C'est particulièrement vif à propos des femmes poètes et en particulier avec cette difficulté à les penser au présent. Le passé est un passé souvent légendaire ou mythifié ou reconstruit, dont Sappho est le meilleur modèle, mais les querelles autour de Louise Labbé il y a une douzaine d'années sont aussi assez significatives, ou un futur, hein, ce futur de la place de la femme qui sera poète elle aussi, hein, et de cette, avec cette valorisation de l'inouï. Enfin, il y a un besoin passionné et perdu de féminin, mais toujours repoussé dans un ailleurs, et une très grande difficulté à admettre cette présence au présent, si je puis dire, hein, peut-être parce que justement l'exaltation symbolique est si grande. Ça, c'est une première chose, donc la description faite est parfaitement juste, et y compris, je ne sais pas ce que veut dire la personne qui pose la question en évoquant une reconnaissance enjoué, hein, mais qui peut être même très favorable. Mais en tout cas, il est sûr que s'exalter pour ce qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est en même temps une forme de déni de ce qui a existé et fait perdre une énergie considérable et un savoir considérable. Aussi, dans l'échange poétique sur lequel on a ouvert la matinée, on a vu l'importance des reprises, des mémoires, des héritages, des modèles. Il est très difficile d'avoir ces modèles comme reconnus, alors dans le canon si on veut, sur le mode scolaire, et aussi d'avoir la mémoire précise de leurs apports. Quand on dit poésie féminine et qu'on la redécouvre tous les 30 ans, on n'a pas forcément cette richesse d'invention formelle dont Marilyn Necker disait qu'elle la nourrissait, puisque l'étiquette poésie féminine, en somme, tend à tout recouvrir et épuiser une grande part de ses apports. Et puis, cela pose une autre question aussi, et là je rejoins, enfin je discute la fin de l'intervention de Audrey Lasserre. C'est la question d'une vision progressive et linéaire, hein, comme si on allait pouvoir procéder par étapes. Évidemment, en somme, l'histoire ne se joue pas, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, je ne sais pas, mais elle ne se joue pas principalement dans l'histoire littéraire et son écriture. Et donc, longtemps, on a pensé que, puisque les femmes entre elles sont plus visibles qu'ailleurs, il vaut mieux des femmes entre elles que pas de femmes du tout. On va renforcer cette tendance, affirmer une littérature féminine ou une poésie féminine, et un beau jour, la puissance sera telle qu'elle fera voler les hiérarchies en éclats, et il y aura des femmes ou du féminin ou du non-identifié partout. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas du tout ainsi, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'affirmation vraiment puissants. Le tournant 19e siècle, 20e siècle, le moment Noailles-Vivien, romantisme féminin, il y a énormément de femmes qui écrivent des choses très diverses, belles, fortes, et elles sont vraiment reconnues et pensées pratiquement comme une solution de renouveau, hein, à la crise des valeurs symbolistes, comme dirait Michel de Codin. Et puis, voilà, une guerre et quelques décennies après, c'est complètement oublié ou minoré ou réduit à de l'anecdotique. Donc, nous tirons ensemble la conclusion qu'on ne peut pas se débarrasser de la catégorie femme, que probablement il ne le faut pas, il faut en faire quelque chose, mais on a une expérience répétée avec insistance que ce n'est pas ainsi que l'on arrive à passer, en somme, dans une appropriation commune de la poésie.
Merci. Vas-y, Audrey. Vas-y.
Alors, si je devais poursuivre ça, mais pour aller dans le même sens, par rapport à la première question sur la circularité, c'est bien évident qu'en travaillant sur des volumes publiés depuis, donc le premier c'est 1943, je n'ai pu que constater que chaque époque rejouait l'entrée des femmes dans la littérature. C'est énorme à quel point, avec des bandes différentes, donc ça peut être 1901, ça peut être 1948, ça peut être 1968, ça peut être les années 80, mais on va le retrouver dans le discours critique constamment, ça y est, enfin, tout a changé, les femmes sont entrées en littérature. Le deuxième point, c'est que si on regarde cette fois-ci les chiffres sur l'ensemble du siècle de production, hein, c'est-à-dire ces histoires de la littérature publiées entre 43 et nos jours, eh bien non, il n'y a pas de variation significative entre 1943 et la dernière est de 2010, je crois. Donc non, on a plutôt des moments où il n'y a pas de femmes et puis des moments où ça remonte un peu, puis des moments où il n'y a pas de femmes, puis des moments où ça remonte un peu. Voilà, ça ressemble plutôt à ça. Encore une fois, on parle entre suivant les époques, entre 0 et 8, et 10% maximum, 8% en moyenne, donc on parle de très peu aussi. Et dans l'ensemble, je pense qu'on est, on n'est pas sorti de quelque chose. Voilà, on est toujours dans la même phase, on n'est pas sorti de cette configuration que moi j'ai pu observer pour ce qui me concerne sur la conception de la littérature au XXe siècle. Voilà. Et le début du XXIe n'est pas encore sorti, en tout cas dans ce qui est le plus aussi... L'histoire littéraire m'en intéresse parce que c'est aussi ce qui est peut-être le plus conservateur, où il n'y a plus d'enjeu de patrimonialisation, où le matrimoine est plus problématique. Voilà, donc non, on n'en est pas sorti là, c'est sûr.
Alors, oui, allez-y, Christy.
Oui, je ne sais pas si j'ai le temps de dire un bref mot qui sera peut-être un petit correctif à ce tout dernier propos. Il y a, je pense, des bouleversements ou des ouvertures momentanées qui ne s'inscrivent pas dans le temps long de l'historiographie littéraire, mais qui sont quand même très importants dans le moment où ils ont lieu, collectivement, symboliquement, et pour les personnes qui les vivent et les écrivent. Et sur le temps long, les chiffres sont remarquablement stables, Audrey les a rappelés. Les chiffres ne disent pas absolument tout, hein. Il faut aussi faire exister les expériences et les textes à côté des statistiques. Tu te rappelles peut-être, Audrey, que Couleur femme avait été le thème d'un printemps des poètes il y a une bonne dizaine d'années de cela. Nous avions commencé un travail sur le contemporain qui n'a jamais abouti, que nous n'avons jamais publié. Et à ce moment-là, c'était très éclairant comme expérience, si averti que nous soyons l'une et l'autre, nous avions été quand même consternés parce que nous avions trouvé à partir d'un sondage dans un certain nombre de lieux de publication très divers, bon, pour y revenir, je ne détaille pas pour le moment. Il me semble que si on se livrait à la même opération aujourd'hui, d'abord on serait obligé de diversifier, renouveler les lieux et les méthodes et les supports pour savoir où les choses se passent. Et il me semble que très récemment, les choses ont bougé et que la cartographie que cela donnerait serait un petit peu moins consternante qu'en 2010. Et cela, il faut bien être lucide, ça n'est pas l'effet des histoires littéraires et ce n'est peut-être pas l'effet principalement de l'histoire de la poésie, c'est l'effet d'un mouvement social planétaire du mouvement MeToo, mais bien sûr, les choses ne sont pas compartimentées et on ne sait pas ce que cela donnera, bien sûr, sur le temps long et du point de vue des inscriptions. Mais malgré tout, peut-être faut-il ouvrir un tout petit peu plus les choses et penser aussi que ce qui a lieu à un moment donné, même si cela se perd dans l'écriture de l'histoire, cela a eu lieu. C'est vrai des mouvements sociaux, c'est vrai plus encore de la littérature et de la poésie parce que cela laisse trace et qu'on peut retourner à ces traces, les redécouvrir et leur redonner vie.
Merci. Alors peut-être pour conclure, moi j'aimerais dire deux choses. D'une part, effectivement, on est toutes les trois d'accord sur cet effet circulaire qui fait que les femmes apparaissent toujours comme étant nouvelles, récentes, avec une sorte de déni d'antériorité de leur activité littéraire. Et aussi, c'est une ouverture, une question que j'aimerais poser aux deux historiennes que vous êtes aussi, puisque moi je suis sociologue, qui est celle que je m'interrogeais aussi en vous écoutant, et je faisais une espèce de projection sur la dimension conflictuelle que peut représenter aujourd'hui l'espace du numérique, où au fond, là où les anthologies littéraires, d'une certaine manière, figent et tracent des contours à des catégories en naturalisant, en réitérant cette présence qui serait toujours très, très récente, je me posais la question de savoir si cet espace du numérique aujourd'hui, qui fait concurrence à la critique académique, qui est celle, au fond, sur laquelle se fondent nos travaux, n'allait pas bouger aussi cette ligne de genre, à la fois le genre de l'anthologie, mais aussi introduire de la conflictualité, du rapport social de sexe, dans cette manière de ne pas enfermer, puisqu'il y aura toujours, je parle pour évidemment celles qui sont vivantes et en activité, qui pourront contredire justement ces catégories critiques qui essayent de s'imposer. Puis après, d'un point de vue méthodologique, je me disais aussi que peut-être un des moyens subversifs que nous pourrions avoir, nous, en tant que chercheuses, ce serait remettre la focale du point de vue des trajectoires des écrivaines, par exemple, et s'interroger sur les modes de catégorisation de leur activité littéraire, de consécration de leur prose ou de leur littérature de façon générale, en voyant comment, d'une certaine manière, au fur et à mesure de leur durée dans la carrière, peut-être que l'on peut observer que les modes de catégorisation varie dans le sens où, même si dans les anthologies, on l'a vu notamment avec Audrey et puis vous aussi Christine au départ, mais il y avait ces chapitres qui leur étaient réservés, si on re-rentre par les trajectoires, ça nous permettrait de revoir comment, y compris ce qu'a figé la critique littéraire, peut être contesté par la manière dont
certaines autrices ont été traitées, si j'ose dire, enfin en tout cas appréciées, appréhendées et catégorisées selon les moments de leur carrière et selon les œuvres qu'elles ont publiées. Voilà, ça c'était une conclusion ouverture. Malheureusement, on n'a pas le temps d'y répondre là. Enfin, je ne sais pas sauf si vous voulez dire quelque chose. Parce qu'après, il va falloir laisser la parole pour la deuxième table. Mais bon, je ne sais pas. Voilà. Voilà ce que m'évoquait votre comme ouverture peut-être.
Moi, cela m'inspire beaucoup et j'ai beaucoup à dire, mais je pense qu'il faut laisser le temps à la phrase suivante. Simplement, oui, ça change presque tout. Et pas seulement pour l'historiographie, mais pour celles et ceux qui écrivent et qui donnent à lire de cette façon, dans les limites du numérique, des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'après, on ne sait pas comment c'est approprié et quels effets cela produit.
Audrey, tu veux l'ajouter quelque chose ?
Non, je vais m'arrêter parce que je voudrais qu'on tienne le temps. Ouais. Sinon, voilà, très bien. Voilà, donc, forcément, voilà, donc, on pourrait...
Merci beaucoup à toutes les deux. On va passer la parole maintenant et voilà, à bientôt et merci beaucoup encore.
Merci Delphine.